lumière.
Vinciane, bonjour et ravi de vous retrouver.
Bonjour Jean-Philippe, ravi aussi.
On a parlé pas mal d'humour à propos des animaux. On a signalé que l'humour nécessitait le fait de pouvoir communiquer sur le langage, de pouvoir communiquer sur les intentions que l'on a quand on dit ou on affirme quelque chose. Alors cette compétence, elle semble bien devoir aujourd'hui être attribuée aux chiens, tout du moins à certains.
Oui, et surtout d'ailleurs aux chiens, de scientifiques spécialistes des chiens. Est-ce que ces chiens seraient plus doués que les autres? Eh bien non, en fait. Mais ils sont dans une posture privilégiée pour être observés, et surtout pour être observés dans des conditions qui permettent aujourd'hui aux scientifiques d'utiliser ces données comme matériel scientifique. Mmh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le statut des anecdotes, et je l'ai déjà évoqué dans cette chronique, le statut des anecdotes est en train de changer. Je rappelle que les anecdotes, et j'en ai déjà plusieurs fois évoqué, j'ai plusieurs fois évoqué cette question, je rappelle que donc le statut des anecdotes, qui était bien accepté dans le travail des scientifiques jusqu'à la fin du 19e et même jusqu'au début du 20e siècle, ont fait après cela l'objet d'une condamnation sévère. Les scientifiques ont exigé à partir de ce moment des données répétées, observées dans des conditions rigoureuses et dont l'interprétation ne fait pas de doute. Et certains scientifiques, toutefois, vont commencer à trouver que c'est un réel gaspillage que de devoir jeter à la poubelle toutes les observations intéressantes, montrant souvent d'ailleurs ces observations que les animaux sont bien plus inventifs et malins que ce qu'on croit. Et jeter ça à la poubelle, c'était donc une perte incroyable de données qui auraient pu figurer comme des choses importantes à savoir à propos des animaux. Et ils vont essayer de convaincre leurs collègues. Alors, dans un article qui est aujourd'hui célèbre chez les éthologues et chez les primatologues, Lucy Bates et Richard Pine vont redéfinir les conditions dans lesquelles les anecdotes peuvent être acceptées. Mmh. Elles peuvent, disent-ils, mériter le statut de données fiables si elles sont observées de manière directe par un chercheur expérimenté et connaisseur de l'espèce et consigné immédiatement après leur observation. Ce sont les trois conditions qui vont permettre aux anecdotes de passer du statut de « bon à la poubelle » au statut de données scientifiques. Et de plus en plus de scientifiques vont suivre cette voie. Ça a vraiment marché, leur article. C'est ainsi qu'on va commencer maintenant à trouver des anecdotes chez les scientifiques qui travaillent au laboratoire et notamment les scientifiques qui travaillent au laboratoire avec des chiens pour tester leur intelligence. Le célèbre spécialiste des chiens, l'éthologue hongrois Adam Miklósy, va d'ailleurs intituler un encart de son livre « Comment utiliser les anecdotes ». Et voici les deux histoires qu'il rapporte en montrant comment elles peuvent être analysées, c'est-à-dire en fait comment les traiter de façon à les rendre scientifiquement acceptables. Comme ces histoires et leur analyse demandent que nous n'allions pas trop vite, je vais vous raconter aujourd'hui les histoires et l'analyse que proposent les observateurs qui ont assisté, qui ont récolté ces histoires. Et je proposerai d'y revenir pour aborder les commentaires de Miklósy la semaine prochaine. La première histoire vient de l'éthologue Sani qui a raconté dans une de ses publications le fait qu'il a l'habitude de sécher son chien Flip après une promenade sous la pluie. Or, une fois, il a oublié. Flip courut vers lui, s'arrêta et commença à se frotter la tête contre le paillasson. Puis il s'arrêta et regarda son maître avec un air interrogateur. Le maître demanda « Tu veux un drap de bain ?» Aussitôt, le chien courut à la salle de bain où se trouvait habituellement ce fameux drap de bain. Eh bien, selon l'observateur, Xani, nous aurions à faire ici un cas rare d'imitation dans le but d'exprimer une demande. Toutefois, cette interprétation, précise-t-il, ne pourrait valoir qu'une fois. Si le phénomène se reproduit, ce ne serait plus de l'imitation, mais l'apprentissage du lien entre l'action du chien et la réponse du maître. Et alors c'est intéressant de voir comment cette interprétation en fait mêle, je dirais, deux cultures. La première culture serait celle qui pourrait être proposée par tout propriétaire de chien un peu attentif. La seconde est ouvertement behavioriste, c'est la théorie du conditionnement, une théorie dont à présent on connaît bien l'ascétisme. On a donc de la même personne qui s'avère être à la fois un maître de chien et un scientifique, deux interprétations qui ne s'excluent pas mutuellement puisqu'elles rendent compte de situations différentes. L'invention d'un geste, d'abord, et puis son éventuelle répétition. Ce qui me semble signifier quelque chose d'important, le fait que les scientifiques commencent à faire confiance à leur intuition en tant qu'amateurs, c'est-à-dire à des intuitions qui ne sacrifient pas l'intelligence de l'animal aux dures lois de la rigueur scientifique et, d'autre part, de ce qu'on appelle le canon de Morgan. Je rappelle que le canon de Morgan, c'est que si deux explications sont possibles et si l'une des deux fait appel à des compétences de registre supérieur et l'autre a des compétences d'un registre inférieur, selon le canon de Morgan, il faut privilégier celle du registre inférieur jusqu'à preuve du contraire. Je vais passer maintenant à la seconde histoire. La seconde histoire vient également d'un éthologiste, Cohen, un autre des collègues de Miklosi, qui la rapporte lui aussi dans un de ses articles. La petite fille dont il est le grand-père avait pris l'habitude de jeter un drap de bain sur la tête du chien Darby et de demander avec la voix des Simpson « Où est Darby ?» Une petite caresse, dit Cohen, était la récompense permettant de faire pardonner cette indignité forcée du chien. Mais il est arrivé une fois que le chien, après le jeu, prit le drap dans sa gueule, regarda son maître, roula sur le côté et encore, jusqu'à ce que le drap lui recouvre entièrement la tête, exactement comme de la situation à laquelle jouait la petite fille. Pour Cohen, il est évident que Darby voulait manifester son désir de continuer le jeu. Et de fait, dit-il, si un enfant avait fait la même chose, on n'hésiterait pas à accepter le fait qu'il ait raisonné, qu'il ait planifié, qu'il ait témoigné de conscience et même d'une certaine logique. Pourquoi donc, demande-t-il, ne l'accepterait-on pas d'un chien, même si cela pourrait être des capacités plus limitées? Je vous propose donc de revenir la semaine prochaine avec les commentaires de Miklosi sur ces histoires et leurs interprétations. Vous allez voir, c'est très intéressant.